Le journal porte la signature de Augustine Bassan. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de vous joindre à nous pour cette autre session d'information. En vitrine dans le 20h de ce dimanche 24 novembre 2024, Assemblée nationale 4 sur 5. La représentation nationale vient d'adopter 4 projets de loi sur les 5 déposés sur sa table ce dimanche. Contenu et importance des 10 projets dans le 20h. Intelligence artificielle, l'humain et l'artificiel en toute responsabilité. Le Conseil national de la communication vient de boucler une session de formation des journalistes à l'usage responsable de l'intelligence artificielle. Vous écouterez vers la fin du journal le président du CNC, Joseph Thiébon Kalaboukse, en posture d'invité. En sport, trophée des champions, Colombe vole plus haut que Victoria United. L'équipe du Diaye Lobo a remporté ce dimanche le trophée des champions face à l'équipe du Sud-Ouest à Douala. Faits et gestes d'un champion, c'est dans ce journal. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue au journal sur le poste national de la CRTV. Le Forum des métiers de la mode et du design célèbre ses noces de cristal. L'événement avait pour cadre le Hilton Hotel de Yaoundé, transformé en terrasse de la mode. Événement rehaussé par la présence de la première dame Chantal Biya, qui de bout en bout a suivi les 3 phases du défilé. Parmi les créateurs de mode présents, l'icône de la haute couture Iman Aïssi. Tous ont rivalisé de génie et de créativité. Plusieurs trophées ont été remis à l'occasion. Une belle cérémonie qui a permis de valoriser le Made in Cameroun. Joseph Clément Ongba.
Commencée le 16 novembre dernier, la 15e édition du Forum des métiers de la mode et du design connaît un happy end. Au Hilton Hotel de Yaoundé, devenu terrasse de la mode, la présence de la première dame camerounaise, Mme Chantal Biya, rehausse l'événement. Architecte de ce bel édifice de la haute couture, le centre de création de mode au Cameroun, Yves Eya en est le directeur.
C'est une marque d'affection et de reconnaissance pour ce travail de créateur qui est fait depuis de très très longues années.
Pour le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, le forum est devenu un moment incontournable de la promotion du Made in Cameroun. Le défilé proprement dit se déroule en 3 séquences. En ouverture de rideau, les incubés, talents de créateurs, puis les entrepreneurs et enfin le défilé final, avec ce bouquet offert, entre autres, par Edimo Design et surtout Iman Aïssi, styliste modéliste hors pair.
Chaque fois que je viens au pays, c'est une célébration. Je suis quand même né ici. Le Cameroun, c'est un beau pays qui nous tient à cœur. Donc, la sélection d'Europe ce soir, j'ai pigé dans les saisons anciennes. Donc, j'ai choisi plusieurs silhouettes pour composer la collection qu'on a vue ce soir.
À l'issue des photos souvenirs autour des créateurs de mode, Mme Chantal Biya part du Hilton Hotel de Yaoundé, laissant l'empreinte de son engagement pour la promotion de jeunes talents et créateurs de mode du Cameroun.
Assemblée nationale, 4 projets de loi sur les 5 programmés ont effectivement été adoptés ce dimanche par les élus de la nation. C'était au cours d'une séance plénière présidée par l'honorable Kombo Berry, l'un des vice-présidents de la Chambre. Plus de précisions avec Pauline Dovine-Mendoz-Embassy.
Le premier projet de loi qui a reçu l'onction de la représentation nationale est celui autorisant le président de la République à ratifier le traité de Beijing sur les interprétations et exécutions audiovisuelles, un projet de texte défendu par le ministre des Arts et de la Culture, Bidoung Pat, qui spécifie entre autres les rapports avec les autres conventions et traités, les droits et obligations des artistes, interprètes ou encore la cession des droits. Le deuxième projet de loi loi adoptée ce jour autorise le président de la République à ratifier la convention de l'Organisation de la coopération islamique pour combattre le terrorisme international. Cette convention définit les mesures préventives et les mesures de lutte pour combattre les actes des terroristes, de même qu'elle précise les domaines de coopération islamique pour prévenir et combattre les crimes terroristes. Ce projet de loi était défendu par le ministre des Relations extérieures, le jeune Bela Mbella. Le troisième projet de loi adopté est celui qui autorise le président de la République à ratifier la convention portant création de l'Organisation internationale pour les aides à la navigation maritime. Ce texte était défendu par le ministre des Transports, Jean-Ernest Massénan Galébibé. La convention ainsi adoptée par l'Assemblée nationale offre de plus grandes perspectives de coopération et de renforcement des capacités pour le Cameroun dans le domaine des aides à la navigation maritime, susceptibles d'améliorer ses ports à travers un meilleur accueil des navires en escale. Le dernier projet de loi examiné et adopté ce dimanche est celui autorisant le président de la République à procéder à l'adhésion du Cameroun à l'acte de Genève de l'arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et les indications géographiques. Les 34 articles que comporte l'acte de Lisbonne abordent des sujets tels que la demande et l'enregistrement international, la protection à l'égard des appellations d'origine et indications géographiques enregistrées, toutes choses qui relèvent l'opportunité de l'adhésion de notre pays à cet instrument juridique, étant donné que le Cameroun dispose des produits agricoles dont la réputation est liée à l'utilisation d'un nom géographique, poivre de Pendja, miel de Oku. Entre autres, ce texte était défendu par le ministre par intérim des Mines, Fou Calypsis Gentry. L'adoption de ces quatre projets de loi porte à 5 le nombre de textes ayant reçu le quitus de la représentation nationale sur la douzaine déjà déposée sur leur table.
L'ambassadeur d'Italie au Cameroun, son Excellence Filippo Scamacca del Murgo, a visité la faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Bertois, où la langue italienne est enseignée depuis le début de cette année académique. Il en ressort que les étudiants de cette langue bénéficieront d'opportunités qui leur permettront de poursuivre leurs études en Italie. Monsieur l'ambassadeur a également été reçu par le gouverneur de la région de l'Est, Grégoire Mvongo, puis a eu une séance de travail avec le professeur Dieudonné Emmanuel Pignembe, recteur de l'Université de Bertois. Plus de détails avec Alvin Baonganzier, CRTV Est.
Pour sa toute première fois dans la région de l'Est, son Excellence Filippo Scamacca del Murgo, ambassadeur d'Italie au Cameroun, a rencontré les autorités de la ville. Il a été reçu en audience par le gouverneur Grégoire Mvongo avant de se rendre à la faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Bertois. Il a eu un tête-à-tête avec le doyen de la Falge, le professeur Martin-Paul Angomejo, et a assisté à un cours en italien. La séance de travail avec le recteur professeur Dieudonné Emmanuel Pignembe a permis à l'ambassadeur de décliner les motifs de sa visite. Son Excellence Filippo Scamacca del Murgo.
Il y a beaucoup d'autres potentialités, même d'échanges de professeurs, des contacts avec d'autres universités, des échanges d'étudiants. La possibilité que, étant donné que l'italien est enseigné dans l'université, d'avoir des étudiants qui puissent continuer leurs études en Italie, faire des thèses de doctorat.
Dans la délégation de l'ambassadeur, les opérateurs économiques italiens et membres du clergé. Un moment d'échange de présents qui augure une belle collaboration entre la jeune université de Bertois et l'université de Touche en Italie. Bertois, Alvin Baonganzier, CRTV.
Des bourses d'études de plus de 2 millions de francs CFA pour des élèves vulnérables du collège Saint-Joseph de Sassé à Bouya, un geste de la section Soba, des anciens élèves résidents à Montréal au Canada qui va assurer une meilleure scolarisation de ces derniers. Salvador Mbetia à Bouya.
Ils sont 17 élèves du collège catholique Saint-Joseph de Sassé qui ne vont plus avoir de la peine à surmonter la dure épreuve de leur scolarité grâce à leurs aînés de l'Association des anciens élèves de ce collège résidant à Montréal, au Canada. Ils vont poursuivre sereinement leur cursus. C'est le fruit d'un projet mis en place qui vise à soutenir les élèves vulnérables et renforcer la logistique du dit établissement.
Révérend Epizitone Anabi, le montant pour tout le projet, c'est 2 150 000. On a diffusé 1 500 000 directement pour les étudiants, 500 000 par étudiant, chaque classe. 450 000, c'est pour les logistiques.
Tout heureux, les élèves bénéficiaires expriment leur gratitude et promettent de bons résultats en fin d'année. Ce geste de ces anciens élèves annonce déjà les couleurs d'un projet phare, celui de la célébration en décembre prochain du 85e anniversaire du Collège catholique Saint-Joseph de Sassé. Boya, Salvador Becha, CR TV.
passées de 11 minutes sur le poste national de la CRTV. Mesdames et messieurs, vous écoutez le journal. L'automatisation de certaines tâches professionnelles, jadis réservées à la seule compétence humaine, est désormais rendue possible grâce à l'essor de l'intelligence artificielle. Si la nouvelle technologie est perçue par les industriels comme une opportunité d'accroître les rendements, au sein de nombreuses salles de rédaction, elle demeure sujet à controverse, opposant ainsi les pro-intelligence artificielle dans la pratique quotidienne du métier aux réticents qui y voient un danger pour l'avenir de la profession. Coralie Laetitia Emini. Nous reviendrons sans doute sur cet élément de Coralie Laetitia Emini, mais il faut dire qu'entre productivité technologique et authenticité journalistique, quel est le choix des salles de rédaction face à l'essor de l'intelligence artificielle? La question semble opposer la tradition à l'évolution dans le métier. Les atouts de la technologie font les yeux doux aux reporters, mais les puristes de la profession de journalisme craignent que la machine ne domine l'être humain. Gilles-Claude Mboritoudi.
Une nouvelle plume s'invite à la table de la salle de rédaction, celle de l'intelligence artificielle. Elle écrit avec rapidité, quel que soit le sujet. C'est une écriture qui ne fait pas de faute. Elle formule et reformule à la commande. Les pannes d'inspiration sont aux oubliettes. La plume digitale excelle dans la vérification des faits. Les fausses informations sont très facilement débasquées. L'outil numérique analyse les données massives et transforme des montagnes de chiffres en un récit cohérent. Seulement, l'écriture rapide peut souvent briser la subtilité d'un texte. Les narrations sont glaciales et dénuées de toute émotion. La plume rédige tout, mais ne ressent rien. Les puristes du journalisme craignent que le génie du rédacteur ne perde des kilos. L'addiction à la machine n'est jamais bien loin. La technologie avance, mais la plume humaine fait de la résistance. Sa narration est profonde, elle est la seule qui puisse capter la douleur d'un témoin ou l'euphorie d'une foule. C'est la championne de la contextualisation culturelle. Ici, la créativité n'a aucune frontière. Son authenticité n'a d'égal que sa verve. Elle a aussi le mérite de muscler le cerveau, mais l'organe peut souvent prendre beaucoup de temps pour se mettre en route. Et si la solution résidait dans une symbiose entre la machine et le cerveau humain, les experts appellent cela une approche hybride. L'intelligence artificielle analyse les données et laisse le soin au rédacteur de mettre une âme au récit. Alors dites-nous, vous êtes plutôt plume digitale ou plutôt plume humaine?
Retour sur ce reportage de Coralie Laetitia Emini qui revient sur les regards des uns et des autres sur l'usage de l'intelligence artificielle dans la profession de journalisme.
Le journalisme est considéré comme le quatrième pouvoir en charge du contrôle des pouvoirs exécutifs, judiciaires et législatifs définis par la Constitution. Mais dans la pratique quotidienne du métier, les journalistes doivent chaque jour conjuguer entre collecte, sélection et traitement de l'information, de nombreuses tâches professionnelles à exécuter, souvent dans des délais très courts, obligeant ainsi certains à opter pour l'intelligence artificielle.
Ghislain Koulibaly, journaliste ivoirien pour Radio de la Paix, utilise fréquemment maintenant l'IA. Quand je finis, par exemple, de travailler sur un article ou un reportage, j'interroge l'IA pour m'aider très souvent à pouvoir peaufiner le travail que j'ai déjà élaboré. Pour moi, ce n'est pas une menace, mais au contraire, c'est un allié.
Si la nouvelle technologie fait déjà les beaux jours de nombreux professionnels des médias, pour d'autres en revanche, elle constitue un danger permanent pour l'avenir de la profession. Armand Nonga, journaliste en service à la direction des antennes. Au poste national CRTV.
Il dit c'est un peu un saut dans l'inconnu, on ne maîtrise pas encore très bien ce que c'est. Donc pour moi, pour le moment, ça représenterait un danger potentiel pour le journalisme. Dans la simple mesure où on va donner la possibilité à la machine de carrément remplacer l'homme dans son métier. Et ce sera difficile pour l'homme aujourd'hui de se produire en tant que journaliste.
Mais les spécialistes se veulent optimistes. L'intelligence artificielle, c'est l'avenir des métiers du monde et notamment du journalisme, à condition que leur usage soit encadré et bien maîtrisé.
En posture d'invité dans le 20h, le président du Conseil national de la communication, Joseph Thibonkin Kalaboubsi, répondra aux questions de Gilles-Claude Mbon-Etundi vers la fin de cette édition du journal. La journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes se célèbre demain, lundi 25 novembre 2024. L'objectif est de sensibiliser sur ces violences afin de les réduire, dites-vous Mimosette Tonier.
Selon l'Organisation mondiale de la santé, 35% de femmes, soit près d'une femme sur trois, indiquent avoir été exposées à des violences physiques ou sexuelles de la part de leur partenaire ou de quelqu'un d'autre. Des violences qui entraînent des problèmes de santé physique, mentale, sexuelle et peuvent accroître la vulnérabilité de la victime. Les violences à l'égard des femmes peuvent être prévenues. Le secteur de la santé a un rôle important à jouer. Il peut offrir des soins de santé intégrés aux femmes soumises à la violence et les orienter vers d'autres services d'appui dont elles pourraient avoir besoin. La célébration ce 25 novembre de la Journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes donne une occasion de plus pour poser des actes afin de réduire ce phénomène. Il s'agit de lutter contre le sexisme et la culture des violences dès le plus jeune âge. C'est aussi le lieu d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur le caractère croissant des actes de violence.
Selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé, datant de 2022 au Cameroun, 8 000 personnes sont victimes chaque année d'erreurs médicales liées aux soins, pouvant pour certaines personnes laisser des séquelles sévères et définitives. À la suite du congrès de la Société savante de médecine légale et expertale du Cameroun, tenu cette semaine à Yaoundé, Scène de presse ouvre le débat ce soir sur les aléas, les erreurs, les fautes et sur le rôle du médecin légiste, une spécialité visiblement peu connue et qui souffrirait d'un vide juridique compromettant son développement. C'est juste après le journal télévisé de 20h30 sur la CRTV. La ministre des Affaires sociales, Pauline Irène Nguyen, effectuera en compagnie de ses homologues des travaux publics, de l'habitat et du développement urbain, de la décentralisation et du développement local et des marchés publics demain lundi, dès 10h, une visite guidée de certaines infrastructures et édifices ouverts au public en vue de mesurer l'accessibilité universelle et la prise en compte de l'approche handicap dans lesdites structures. Il s'agit notamment des immeubles sièges de l'Assemblée nationale, de l'Agence de régulation des télécommunications et du Centre national de réhabilitation des personnes handicapées, cardinal Paul-Émile Léger. Cette activité marquera le lancement officiel de la 33e édition de la Journée internationale des personnes handicapées 2024 sous le thème « Accentuer le leadership des personnes handicapées pour un avenir inclusif et durable ». Vous écoutez le 20h sur le poste national en religion. Plus de 2500 fidèles issus du groupe Christian Women Fellowship mobilisés à Yaoundé pour célébrer leur 63e anniversaire. Les délégations venues des régions de l'Est et du Sud unissent leur voix à celle du Centre pour réitérer leur engagement à œuvrer pour Dieu et pour leur communauté. C'était ce dimanche au cours d'une messe célébrée au stade du lycée bilingue de Nkoletoun. Marc Blama pour plus de détails.
Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Message tiré de Luc, chapitre 21, verset 36, qui a guidé l'année 2024 de Christian Women Fellowship. Elles se sont mobilisées 2 jours durant au lycée bilingue de Coleton pour unir leurs forces. Chontu Patricia, présidente de Christian Women Fellowship East Mungo North.
Nous avons envisagé pour notre 5 ans qu'on aura à faire, essayer d'investir sur nos sœurs qui n'ont pas de moyens de faire le commerce. Et on a aussi un grand projet qui est pour toutes les femmes de la PCC. Et ce projet, c'est de finir notre centre qui est à Bamenda.
La congrégation de Christian Women Fellowship PCC Bastos qui a accueilli l'événement éprouve un sentiment de satisfaction. Alice Mundi, présidente de CWF PCC Bastos.
L'événement a été un grand succès puisqu'on est arrivé à loger plus de 2500 femmes sans incident, avec une bonne sécurité. Elle est donnée à manger et tout le monde est content.
À l'occasion de cette célébration, les membres du bureau exécutif de Christian Women Fellowship ont été installés dans leurs fonctions pour un mandat de 5 ans.
Toujours en religion, rester en prière pour affronter les vicissitudes de la vie. C'est l'appel lancé par le reverend Kandenis Tem, pasteur de la Presbyterian Church in Cameroun de Bonamoussadi. C'était à l'occasion de la rencontre annuelle des femmes de la PCC de la région du littoral. Le compte rendu de José Gaëtan Tchanga.
Faites à la Presbyterian Church in Cameroon, paroisse de Bonamoussadi. Les femmes de cette obédience religieuse chrétienne ont répondu présent à l'appel de leur congrégation. Elles viennent de Bepanda, Newton Aéroport, Kowe, Bassa, Yupwe et même de la Sanaga Maritime. Rose Chinda et Dr. Marceline Meshi, membres de la Christian Woman Fellowship.
C'est toujours une joie de rencontrer ta sœur, avec qui vous partagez la même foi, ta sœur chrétienne. Et nous avons souvent eu été ensemble, donc c'est un peu comme une famille séparée qui se retrouve. C'est une obligation de rendre grâce à Dieu pour tous ces merveilles de janvier jusque maintenant. Nous sommes tellement contents et on rend grâce à Dieu.
Le message de la paix et de la cohésion, mais surtout de la prière, leur est donnée.
On les a demandé d'être prudents et prier à tout moment, parce que les temps qu'on vive, ce n'est pas les bons moments. Il y a trop de mauvaises choses qui se passent. Donc la seule chose qu'on peut faire pour ce moment, c'est de prier.
Les activités récréatives telles les chants, les danses et études bibliques meubleront cette journée de fête. Douala José Gaëtan Tchanga, si active.
Passées de 23 minutes, mesdames et messieurs, nous sommes rendus en sport. La colombe sportive du Diaï Lobo est sacrée vainqueur du trophée des champions 2024. L'oiseau du Sud est venu à bout de Victoria United de Limbé sur le score de 2-1 à l'issue d'une confrontation très enlevée ce dimanche au stade Mbappé-Lépé de Douala. Le film de la rencontre avec Georges Alain Yango, CRTV Littoral.
Au bout d'un match à couper le souffle, notamment lors des 18 minutes de jeu, la colonne sportive du Diaï Lobo peut soulever le trophée des champions dans une ivresse d'allégresse. Le pied sur l'accélérateur, dès l'entame du match, l'oiseau du Sud commence à prendre son envol en ouvrant le score à la 19e minute de jeu. Piqué dans son orgueil dès le retour des vestiaires, Victoria United de Limbé revient au score peu avant l'heure de jeu suite à un pressing gagnant de son capitaine, Wilfried Nathan Douala. Avec l'égalisation de son joueur vedette, Opopo retrouve son jeu séduisant avant de se faire à nouveau surprendre à la dernière minute du temps réglementaire par un but assassin de l'oiseau du Diaï Lobo. Le milieu de couloir Yvan Vandor de la colonne sportive du Diaï Lobo, homme du match.
On avait vraiment à cœur de remporter ce nouveau trophée. La saison vraiment était longue et ce n'était pas facile. Je suis vraiment très content. Dès que sorti encore homme du match, c'est vraiment une fierté pour moi et pour mes coéquipiers. Oui.
Docteur Alain Mathieu de Kouidjane, PCA de la colombe du Diaï Lobo.
Lorsqu'on prenait les rênes de la colombe, nous nous sommes dit qu'il faut professionnaliser la colombe. Et nous sommes sur ce chemin avec la mobilisation de toute l'élite du Grand Sud.
Un match au suspense, fort apprécié par la représentante du président de l'Afrique Foot, Céline Eko, et le secrétaire général des services du gouverneur du littoral, Aboubakari Amanchoutou, qui annonce déjà les couleurs d'une saison à venir toute relevée. Douala, Georges Alain et Yango, CRTV.
Éliminatoire du tournoi Afrobasket 2025, les Lions indomptables de la balle orange sont dans l'aréna de Dakar. Ils affrontent les Lions du Sénégal en ce moment pour le compte de la troisième et dernière journée de la manche aller. Cette bataille de fauves se dispute avec pour enjeu la suprématie du groupe C, un choc que les Camerounais, actuellement dans une bonne forme, abordent après avoir triomphé du Rwanda hier par 70 points à 59. Russell Oriani.
Deux matchs, deux victoires, 146 points inscrits et un net avantage dans la course à la qualification en cas de succès ce soir. Les Lions de basket mènent pour l'instant un train d'enfer dans le groupe C. Le Gabon écarté lors de la première journée, puis le Rwanda en seconde sortie ce samedi. Deux adversaires de bon niveau piétinés par Flavien Ateba et ses partenaires dans leur campagne éliminatoire. Face aux Rwandais néanmoins, les Lions gardent un léger goût d'amertume malgré la victoire. Ils ont réalisé un début tonitruant, empochant les deux premiers cartons avant de lâcher prise dans les deux derniers. Une bévue tactique ou la conséquence d'une montée en régime dans le camp adverse, l'entraîneur Alfred Aboya donne l'explication.
Chaque équipe nationale est constituée de compétiteurs. Ils ne viennent pas en victime résignée. Ils viennent pour se battre, ils viennent pour gagner le match. Le Rwanda a su mettre une stratégie pour nous forcer à perdre le ballon. Et tout doucement, ils sont revenus au score. Mais notre expérience, notre caractère a fait en sorte que nous ne lâchons pas prise.
Le respect du plan de jeu, condition de triomphe espérée contre le Sénégal, un ingrédient indispensable pour soumettre un challenger d'un tout autre calibre, des Lions sénégalais, leaders invaincus du groupe C et revanchards au souvenir du traumatisme de l'élimination provoquée par les Camerounais lors du récent tournoi de préqualification olympique dans cette enceinte du Dakar Arena.
La presse camerounaise ne doit pas avoir peur de l'intelligence artificielle. Elle doit s'approprier cet outil technologique pour augmenter sa productivité et vérifier les informations qui sont diffusées dans le cyberespace. Déclaration de Joseph Thiebonkin Kalaboupsé, le président du Conseil national de la communication et l'invité du 20h, entretien mené par Gilles-Claude Mbonitoudi.
Monsieur Joseph Thiebonkin Kalaboupsé, président du Conseil national de la communication. Comment est-ce que les journalistes peuvent capitaliser des applications d'intelligence artificielle pour pouvoir booster leur productivité, leur rendement?
Nous sommes dans l'ère de l'évolution technologique. C'est une technologie que les journalistes peuvent capitaliser. Les journalistes marchent avec leur ordinateur, avec leur smartphone, et là-dedans, il y a les applications qui aident les journalistes à travailler et à vite réaliser les travaux qu'on leur donne souvent. Et si l'intelligence artificielle s'ajoute, ça veut dire que l'homme peut utiliser la machine à sa fin. Et ceci peut aider le journaliste à mieux travailler. Il y a même parfois les fact-checking où les journalistes peuvent interroger la machine et que la machine lui donne soit une confirmation, soit un démenti sur une donnée. À notre époque, on n'avait pas ça, mais il y a une évolution vite que les journalistes doivent s'adapter parce que c'est nécessaire et c'est utile.
Monsieur le Président, est-ce que vous n'avez pas l'impression que l'utilisation des applications d'intelligence artificielle ne va pas plutôt tuer le génie et l'authenticité des différents articles produits? Quelle est donc la place du génie dans le travail journalistique?
Moi, je suis parmi ceux qui pensent que la machine ne peut pas remplacer l'homme entièrement. L'homme peut tirer les avantages des machines qu'il a. Il y a des génies, mais l'homme peut capitaliser sur les données pour essayer d'ajouter le plus qui est dans sa tête et sa manière de faire. On dit en anglais, la machine ne peut que reproduire ce que l'homme met dedans. Et l'homme ne peut pas tout mettre. Et des hommes ne peuvent pas penser de la même façon partout. Donc, c'est pour cela que je crois que c'est utile et la bienvenue, mais l'homme reste maître de jeu. Et le talent va toujours briller quand un journaliste est bon.
Par rapport à ce qui concerne les chiffres et les données, il y a pas mal de serveurs qui n'ont pas actualisé leurs données. Ce qui fait que lorsque l'on utilise les applications d'intelligence artificielle uniquement, on peut se retrouver en train d'avoir des chiffres erronés ou alors des chiffres qui ne sont pas adaptés
adaptée au contexte camerounais.
Quand on dit que l'homme tire l'avantage de ce que la machine donne, ce n'est pas pour devenir un esclave. C'est pour que la machine lui sert à faciliter la tâche. La machine ne peut pas remplacer l'homme. Et de ce fait, le Conseil national de la communication est dans son rôle de sensibiliser, de contribuer à l'éducation et à la formation des journalistes pour que nous avons des journalistes bons, le journaliste de talent, le journaliste qui cadre avec l'éthique et la déontologie. Quand un journaliste est bon, la presse ou l'organe de presse dans lequel il travaille a une hauteur et ils vont toujours éviter de tomber dans des sanctions.
Est-ce que le CNC compte encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les médias pour garantir la fiabilité de l'information et le respect des droits fondamentaux et de quelle manière concrètement?
Pour le moment, la question est très compliquée parce que ça ne dépend pas entièrement du Conseil national de la communication, ça dépend plutôt en premier lieu au Parlement. Nous n'avons pas encore légiféré sur la question au Cameroun et c'est une nécessité pour les parlementaires. Parce que comme c'est nouveau, ce n'est pas donné. Chaque pays est en train de voir comment ils peuvent écrire les lois pour s'adapter à l'évolution technologique.
Joseph Chebonkin Kalaboubs, président du Conseil national de la communication. Merci encore pour tous ces éclairages.
Le plaisir était de partager ces idées avec vous.
Le 20h s'achève à retenir. Assemblée nationale 4 sur 5. La représentation nationale vient d'adopter 4 projets de loi sur les 5 déposés sur sa table ce dimanche. Intelligence artificielle, l'humain et l'artificiel en toute responsabilité. Le Conseil national de la communication vient de boucler une session de formation des journalistes à l'usage responsable de l'intelligence artificielle. Le président du CNC, Joseph Tchebonkin Kalaboubsé, était l'invité du 20h. Puis en sport, trophée des champions, Colombes vole plus haut que Victoria United. L'équipe du Dia et Lobo a remporté ce dimanche le trophée des champions face à l'équipe du Sud-Ouest. C'était à Douala. Le 20h, c'était une mise en onde de Daniel Mamia, réalisation Christine Victoria Pinda, Augustine Bassama, ce microphone, coordination Serge Foisgué. Mesdames et messieurs, très bonne fin de week-end et d'avance, bonne semaine. Bonsoir. We'll be right back.